Bonjour à tous, à toutes. Alors, cette rencontre va avoir lieu en deux temps. Une première partie, nous allons évoquer Savannah Bay avec Catherine Robbe-Grillet, Beverly Charpentier, Maud Andrieux. Dans la deuxième partie, nous évoquerons le travail d'écrivain de Catherine et les textes de Catherine Robbe-Grillet.
Merci à tous d'être venus nombreux, je vous remercie. Merci à la librairie Mola de nous accueillir aussi pour cet entretien. Évidemment, je suis très 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 heureuse de pouvoir accueillir Catherine Robbe-Grillet et Beverly Charpentier. Et très heureuse également que l'on puisse faire cet entretien avec vous ici en petit comité et que Valérie Fontalirand, spécialiste de Marguerite Duras, ait accepté de faire l'entretien. Voilà.
Alors, petite présentation de Catherine Robbe-Grillet. Vous êtes actrice de théâtre, de cinéma, vous êtes écrivain sous le nom de Jeanne de Bergues, puis sous votre propre nom, et auteur notamment de Cérémonie de femmes, Jeune mariée journal, en 2012 Alain, publié chez Fayard. Ce titre Alain s'adresse bien sûr à Alain Robbe-Grillet, dont vous étiez l'épouse. Alain Robbe-Grillet qui fut écrivain, cinéaste, pape du nouveau roman. Depuis 2014, vous interprétez Madeleine dans Savannah Bay, aux côtés de Beverly Charpentier, qui a aussi réalisé la mise en scène. Alors, on va peut-être rappeler un petit peu aussi le motif de Savannah Bay. Savannah Bay a été publiée par Marguerite Duras en 1983. La pièce met en scène deux femmes qui explorent les méandres de la mémoire pour évoquer un événement dont elles n'ont pas été témoins, mais qui a bouleversé leur vie. Savannah, sans doute fille de la première et mère de la seconde, s'est noyée au lendemain de son accouchement, après une intense passion amoureuse. Chaque jour, à la demande de la jeune femme, la vieille dame essaie de raconter cet amour absolu, sa fin tragique et la naissance de l'enfant. Alors Catherine et Beverly, vous avez joué Savannah Bay en Chine, en Afrique du Sud, en France. Comment est né ce désir de jouer ce texte, de le mettre en scène ?
Bon, alors je vais être obligée de répéter quelque chose que j'ai déjà dit, dont certaines personnes l'auront peut-être entendu. C'était en 2014, à l'occasion de la reconnaissance de la Chine, 50 ans auparavant, par De Gaulle. Et alors, l'État français et la Chine ont décidé d'organiser quelques manifestations à cette occasion. Et l'éditeur d'Alain, un passionné en chinois, qui éditait les livres d'Alain et les miens par la même occasion, a décidé de faire bande à part et d'organiser lui-même une manifestation. Alors, connaissant mes antécédents d'actrice, il s'est adressé à moi et m'a dit « Est-ce que vous pourriez... » adapter un texte d'Alain Robbe-Grillet. Ouh là là, j'allais pas adapter un texte de Robbe-Grillet, évidemment. Bon, et il se trouve que en 2014, on célébrait le centenaire de la naissance de Marguerite Duras. Donc il y a eu à Paris pas mal de représentations de pièces de Marguerite Duras, dont Savannah Bay. Nous sommes allés voir Savannah Bay, et en sortant, on s'est dit, mais c'est formidable, c'est pour nous ça. C'est-à-dire qu'il y a deux actrices, une vieille dame et une jeune femme qui est sans doute sa petite fille.
Une moins vieille dame.
Bon, en tout cas, l'écart d'âge entre Beverley, Charpentier et moi-même nous permettait parfaitement de jouer ça. Donc, Beverley, qui a beaucoup plus travaillé la mise en scène que moi, je n'ai pas vraiment fait de mise en scène, j'ai surtout été actrice, s'est lancée, donc, dans l'adaptation, puisqu'il faut savoir que Savannah Bay, il y a eu au moins deux versions. Et donc, en général, quand on vous montre Savannah Bay, chacun fait un petit peu son adaptation personnelle. Donc, c'est elle qui a fait l'adaptation. On a répété, tout simplement. Et puis, nous sommes allés le jouer en Chine, où nous avons été reçus comme des princesses. On a joué donc à Canton, à Nankin, à Shanghai. Et on devait jouer aussi à Pékin, puis ça ne s'est pas arrangé pour des questions de date. Et on a été, vraiment, la réception a été formidable. Tous les théâtres étaient pleins. Alors, on jouait en français, bien sûr, mais il y avait des surtitres chinois, évidemment. Ce qui, évidemment, a des avantages, des surtitres. Parce que quand on se trompe, ça se voit tout de suite.
Mais comment ça s'appelle ? Ce n'est pas des surtitres, parce que ce n'était pas dessus, c'était sur le côté. Ça montait, ça descendait.
Mais bon, enfin, on appelle ça des surtitres, quand même. Bon. Voilà, et puis ensuite, on a été amenés à le jouer en Afrique du Sud, et puis, comme l'a dit Valérie, plusieurs fois en France. Et dernièrement, au MacVal, qui est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne, près de Paris.
Alors, on va revenir justement sur, puisque vous avez bien expliqué qu'il y a plusieurs textes.
Hein, oui.
Il y a un premier texte écrit en 82, puis après il y a l'adaptation 83. On va revenir un petit peu là-dessus. Mais moi, j'avais, je sais que Catherine Robillet, vous aviez vu l'interprétation de Madeleine Renaud. Alors, on a discuté tout à l'heure.
Alors, c'est Valérie qui m'a rappelé que dans Correspondance, c'est-à-dire la correspondance entre Alain et moi, je fais allusion en 83 au fait que j'ai vu Savannah Bay avec Madeleine Renaud et que je conteste la mise en scène et que j'aurais dit, mais je l'ai sûrement dit puisque
dit,
c'est dans la correspondance, que la mise en scène n'était pas très intéressante, mais que le public viendrait parce qu'il y avait Madeleine Renaud et que Madeleine Renaud était remarquable. Bon. Eh bien, j'avais complètement oublié, je dois dire. Mais alors, complètement. Et alors, j'étais très intéressée de voir, justement, comme si j'avais rien vu, les quelques moments de répétition filmés par Michel Porte au moment du travail entre Marguerite Duras, Madeleine Renaud et Bulogier. Et alors, on a vu Bulogier avant-hier. J'ai eu envie de voir pour savoir ce dont elle se rappelait. Ce dont elle se souvenait. Et elle ne se souvient pas de grand-chose, sauf d'une chose, c'est que Marguerite changeait tout le temps. C'est-à-dire qu'elles avaient un texte, et puis le lendemain, c'était autre chose. C'est-à-dire que des répliques de Savannah passaient à Madeleine, enfin à Madeleine, ou vice-versa. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de religiosité, de sacralisation du texte de Duras, mais je pense que si on change un mot, ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, elle-même, elle était un peu, au moment du travail, ce n'était pas manifestement tout à fait sacré. Et elle m'a rappelé aussi, ce qu'on ne voit pas sur le film de Michel Porte, qu'il y avait un décor. Il y avait un décor qui rappelait les roches noires, c'est-à-dire des grands rideaux de satin, de velours rouge en tout cas, avec un fond où on voyait la mer. Tiens, à propos, j'ai oublié de vous dire, on a effectivement joué aussi aux Roches Noires, c'est-à-dire le lieu sacré où avait Marguerite Duras avait son appartement.
Oui, et puis vous avez joué aux Roches Noires et Michel Porte, qui a réalisé le film Savannah Bay, c'est toi, était présente. Hein.
Oui, oh là là, oui,
est-ce qu'on avait la trouille.
Et a quand même dit que c'était splendide. Et a dit,
Oui. Oh oui, on était très intimidés, Beverley et moi, on s'est dit, oh là là, les Durassiens sont là, ça va être épouvantable. Alors on était aux 400.
Bon, moi je peux témoigner puisque j'y étais et Michel Porte était au premier rang et elle était très émue de votre adaptation et aussi de ce qui transparaît sur scène quand vous jouez Savannah Bay, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre vous deux qui est extrêmement sensible, palpable. On sent une immense complicité.
Mais Marguerite, elle a écrit pour nous, hein.
Ça, c'est oui. Elle ne savait pas,
mais elle a écrit pour nous. Il y a certaines répliques.
Et même parfois, on trouve qu'elle était un peu indiscrète. Les répliques sont telles, ça vient tellement de notre intimité qu'on a l'impression qu'elle a regardé par le trou de la serrure.
Ça, c'est très palpable. Tout à l'heure, j'assistais à la répétition, donc pour la représentation de demain. Et tout, en fait, vos regards, etc., on a l'impression que vous jouez cette scène-là, enfin, cette pièce-là de Savannah depuis 20 ans. En fait, c'est la complicité qu'il y a entre vous, vous deux, en tant que femmes, qui est là et qui est présente et qui est palpable. Et c'est extrêmement émouvant. J'en avais les larmes aux yeux. Parce que même dans le travail, il y a l'énergie qui passe de l'une à l'autre. Et c'est très sensible, c'est très pudique aussi, et c'est très émouvant. Voilà.
Oui, c'est gênant, parce que surtout de vous, parce qu'on a beaucoup d'admiration pour vous.
Merci.
C'est vrai, que moi, j'ai l'impression que ça a été écrit pour moi, vraiment. Mmh. Et c'est un rôle en or, faut bien le dire, parce qu'il permet un travail sur différents registres, la gaieté, la tristesse, la sensation de la mort, la déraison,
la colère,
l'énervement, et puis tout d'un coup le jeu un peu folle, et puis carrément le jeu très théâtral, puisque je suis censée être jouée au théâtre, donc c'est un rôle en or, vraiment. Merci Marguerite.
Alors justement, pour en revenir à ce film de Michel Porte, Savannah V, c'est toi, est-ce que vous avez utilisé ce film pour peut-être récupérer des indications de jeu, ou au contraire, vous avez voulu vraiment vous en éloigner et...
Non. Alors, il faut dire tout de suite que la mise en scène qui a été faite en Chine est très différente de ce que vous verrez peut-être ce soir. C'est-à-dire qu'on avait prévu en Chine, enfin Beverley, et surtout Beverley, puis moi disant oui, non, enfin bon, on l'a fait ensemble quand même.
Enfin, moi je propose, toi tu disposes.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est Beverley qui, elle, a vraiment eu une carrière au théâtre et qui règle le son, les éclairages, enfin, ce que moi, je suis beaucoup moins apte à faire ça, je ne suis même pas apte du tout. Donc, on avait fait une mise en scène beaucoup plus somptueuse, type Indochine des années 20-30.
Mais j'ai l'impression qu'on n'avait même pas vu le film de Michel Porte avant la Chine.
On l'avait vu au début ? On l'avait vu. Mais il n'y a que des extraits, il n'y a pas toute la pièce. Est-ce que ça nous a influencé ? Non, je crois pas. J'ai pas l'impression.
Je crois, mais de toute façon, notre jeu est vraiment différent de celui de Bulle et de.
Oui, alors
je sais pas.
Pour vous avoir vu un peu en répétition tout à l'heure, ce qu'on retrouve aussi, c'est par exemple, c'est la démarche. Tout à l'heure, je vous voyais en répétition, vous continuiez à construire en fait.
Oui.
Et c'est ce qu'on voit dans Savannah V, c'est toi, dans le film de Michel Porte. On voit Duras qui constamment réécrit, construit par rapport au jeu de ses actrices.
Comme elle faisait, d'après ce que disait Bulle.
On voit que, on a l'impression que vous aussi, vous êtes constamment dans la construction.
C'est important
pour plusieurs raisons. D'abord pour essayer de perfectionner quelque chose, mais en plus parce que ça fait maintenant longtemps qu'on le fait, et pour que ça reste... nouveau, ça
bien
reste,
mais ça reste forcément nouveau puisqu'on change de lieu
et de public.
Voilà, c'est ça.
On change de lieu et de public, donc il faut bien ça. Faut retrouver une nouvelle jeunesse à chaque fois, si je puis dire.
Mais il y a aussi une autre grande différence entre la mise en scène qu'elle avait. C'est le jeu des comédiens dans la mise en scène de Duras. En général, je crois, mais surtout dans ce petit film qu'on a vu, c'est un jeu stylisé, c'est pas un jeu naturel. Alors que depuis un certain temps, moi, j'étais plutôt traumatisée au théâtre à Paris par le mode du jeu pas naturel. Je suis pas contre, mais on en a vu tellement et beaucoup qui n'étaient pas... qui vraiment c'était pas bon, qu'on avait envie d'aller vers quelque chose le plus naturel possible sans trahir le texte de Duras.
C'est ça qu'on ressent, c'est une grande sincérité.
Je dois dire que, effectivement, à chaque fois, on est obligé de s'adapter au lieu. De réinventer, effectivement, un peu la mise en scène, un peu, pas complètement, mais un peu. Et alors, en quittant la Chine, on a revu tout ça et repris une mise en scène beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de celle de Marguerite Duras, où il y a deux fauteuils, une table...
Et le texte, parce que quand même, pour elle, c'est le texte.
Oui, le texte, bien sûr, le texte est le même. Puis une bouteille de vin, important. Mais on change de fauteuil, on change de fleur, on change d'espace. Donc, il y a une réinvention partielle, évidemment. On ne change pas le texte, bien sûr.
Dans ce texte, il y a la pierre blanche.
Ah, la fameuse pierre blanche.
La fameuse pierre blanche, le thème de la pierre dans l'œuvre de Duras, on le retrouve beaucoup dans l'amant. C'est une famille en pierre, pétrifiée dans une épaisseur sans aucun accès. Elle est aussi présente dans son dernier texte, c'est tout. Je rejoins des masses de pierres quand j'écris les pierres du barrage. Alors, à Michel Porte, elle avait confié que c'était l'espace de l'écrit. C'était le symbole de l'espace de l'écrit. Ouais. C'est la pierre blanche. Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment... Est-ce que dans la mise en scène, il y a quelque chose qui symbolise cette pierre ? ou pas?
Non, pas dans la mise en scène, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'elle emploie des mots pour cette pierre, terrible et plate et désertée par la vie et sublime, et qui pour moi n'avait pas de sens. Mais si c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que ça représente, tout à coup, ça a un sens.
En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Michel Porte lui pose la question, et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, c'est la page de l'écrit.
Ah, pourquoi pas? Non, moi, c'est une pierre blanche que j'ai connue quand j'étais petite, au milieu de la mer, tombée de la falaise, comme où j'ai passé mon enfance comme cette fille, alors c'est ce que je vois.
Pour revenir sur les... Vous avez adapté la version, donc...
Non, il y en a deux. On a pris les deux.
Vous avez pris les deux.
Et le choix était déterminé par ce qui nous convenait le mieux dans la bouche de chacune, d'un côté, et d'un autre côté, par ce qui allait être le plus naturel. Comme on avait choisi de faire un jeu naturel, on choisissait toujours la réplique qui allait plus dans ce sens-là.
Alors, Bulogier nous a dit que Marguerite avait tendance à reprocher à Madeleine Rogenaud son jeu théâtral. Alors ça, je n'ai pas très bien compris ce que je dois dire.
Non.
C'est-à-dire qu'elle bousculait pas mal, Madeleine Renaud. Alors qu'avec Bull, ça, il n'y avait pas de problème.
Mais elle nous a dit qu'elle voyait Madeleine un peu comme sa maman, donc quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Et quand elle n'était pas contente, elle la bousculait. Il n'y avait pas un respect ou une vénération pour la grande dame du théâtre du tout. Alors que, d'après ce qu'elle nous dit, avec Bull, elle était plutôt douce et tolérante.
Marguerite, elle est quand même dans la réécriture souvent. Elle affine, elle reprécise quand elle écrit Les Dents Cinéma, l'adaptation d'Un barrage contre le Pacifique. Enfin, elle fait son adaptation parce qu'elle sait très bien qu'Un barrage contre le Pacifique, ça va être adapté. Et donc, elle fait son adaptation théâtrale. Elle écrit L'Amant et puis après le film de Jean-Jacques Hano, elle écrit L'Amant de la Chine du Nord parce qu'en fait, elle veut repréciser de nouveau l'écrit. Donc, c'est souvent ça. Et quand on voit les répétitions avec Madeleine Renaud,
elle changeait le texte et elle était un peu paniquée. Oui.
Et on voit aussi qu'elle n'est pas très à l'aise dans la direction d'acteur, Marguerite, si je peux me permettre.
Non, je suis de votre avis.
Elle n'a pas les mots pour indiquer à Madeleine et à Bulle ce qu'elle veut réellement. Donc elle tâtonne et donc elle s'énerve.
Oui.
Elle a sans doute une musique dans son esprit, mais elle n'a peut-être pas la manière de le dire, parce que la mise en scène, c'est quelque chose de très spécial. Dans l'écriture, elle est merveilleuse, elle est parfaite, elle est incroyable, elle est unique, je dirais.
Dans les relations humaines, peut-être.
Mais pour la mise en scène, elle a une image, mais le lien pour faire arriver l'acteur ou l'actrice jusqu'au jeu, ça semble compliqué.
Oui.
Donc elle réécrit.
Je pense qu'elle est, même dans la...
Elle est insatisfaite
aussi. Le travail
de mise
en scène, elle continue à être dans la réécriture.
Oui.
Ce qui fait qu'effectivement, l'acteur qui est en face, pratiquement, elle
oublie. C'est compliqué.
Ça devient presque un objet qui doit être au service de cette réécriture.
Oui. Et c'est déstabilisant aussi.
D'où, effectivement, le fait qu'elle n'est pas toujours... On le voit bien dans le film « Savannah baisse et toi », elle n'est pas toujours tendre, effectivement.
Non, elle est vraiment dure avec...
Oui.
Mais vous avez raison, parce que plus elle est dure, plus on voit Madeleine Renaud se renfermer et la communication ne passe plus.
Mais oui,
alors que Bulle, à l'époque, il était beaucoup plus jeune et fluide.
Et en même temps, elle a écrit ce texte pour Madeleine Renaud.
Oui, effectivement.
L'actrice s'appelle Madeleine.
Mais c'est que Marguerite aussi, elle a une passion pour le théâtre. Elle avait envie de faire du théâtre. Elle adorait cet univers-là du théâtre. Mais après, de là à faire de la direction d'acteur,
c'est
encore autre chose. Quoi. Voilà.
Mais ça, c'est intéressant aussi, parce qu'elle en parlait dans... Quoi est-ce que je l'ai vu récemment? Où elle parlait de quelque chose qu'elle avait écrite pour le... Je me souviens plus que c'était un texte qui a été édité, et elle pensait éventuellement faire un film ou peut-être une adaptation. Pour elle, c'était très fluide. Contrairement à Alain Robbe-Grillet, qui, pour lui, c'était incompréhensible. Pour lui, il avait quelque chose dans sa tête et tout de suite, c'était un film. Où c'était, il n'y avait pas moyen, pas question de éventuellement de faire une adaptation.
Ah non, là, il n'a jamais fait une adaptation cinématographique d'un roman. Non, pour lui, c'était un. Il pensait tout de suite en mots, en littérature. Il pensait tout de suite en images. Enfin, je ne veux pas parler de Marianne Bade, mais enfin, ce qu'il a fourni à Alain René, c'était un découpage image par image. C'était pas du tout un scénario. Donc, on lui demandait un film, ce qu'il avait tout de suite, c'était non seulement des images, mais un découpage et un montage. Donc, de ce point de vue-là, Marguerite et lui, c'était vraiment complètement à l'opposé. Moi, j'ai connu Marguerite, évidemment, étant donné mon grand âge, j'ai connu Marguerite du temps où elle était jeune. Elle était drôle, hein, à ce moment-là. Et alors, je les ai... Enfin, c'est peut-être pas intéressant que je raconte ça, quand même. Non, parce que j'ai rejoint le trio qui était Marguerite, Alain et Nathalie Sarraute en Angleterre. Bon, c'était tout le début de la vogue du nouveau roman, c'est-à-dire fin des années 50, début... C'est fin des années 50. Et alors, on a toujours l'impression que des gens célèbres comme ça... des intellectuels, eh bien, ils parlent de choses profondes, de littérature, de philosophie. Et puis, Marguerite et Nathalie, ce qu'elles faisaient, c'était les boutiques et par les chiffons. Et moi, je trouvais ça très bien. Non, c'est une anecdote comme ça. Ouais, et à l'époque, elle était très drôle.
On y reviendra.
En vieillissant, elle s'est pris peu à peu pour Marguerite Duras. Mais c'est tout juste si elle ne parlait pas d'elle-même à la troisième personne. Ça n'enlève rien à son génie, ça n'enlève rien à sa littérature, mais elle était devenue très difficile, et assez méprisante pour les gens qui n'étaient pas de son avis. Je ne parle pas d'Anna, hein, non, je l'ai vue vraiment très dure, avec des critiques qui n'avaient pas toujours aimé ses livres. Bon, ce qui prouve une fois de plus qu'on peut avoir du génie et dans la vie ne pas être forcément très sympathique. Mais enfin, au début, elle était très drôle, hein, avant qu'elle boive trop, finalement. Je crois que l'alcool ne lui réussissait pas.
C'est contre moi que tu dis ça?
Alors, justement, Alain Robbe-Grillet disait que Duras, c'était l'Édith Piaf du nouveau roman.
Ben oui, il a eu raison, alors, la preuve. Savannah, ça commence par...
Toute cette pièce a été écrite autour de la chanson de Piaf.
Oui, mais il l'a dit avant.
Il a dit Édith Piaf. Oui, c'est vrai. Marguerite Duras, c'est l'Édith Piaf du nouveau roman. Oui, il a dit ça.
Alors, bon, on a évoqué Madeleine Renaud, Bulogier, Emmanuel Riva, Delphine Sierrig... Vous, Maud, moi j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est qu'une une actrice durassienne.
Oh là là. Écoutez, peut-être que Maud sera c'est ce que plus à même que moi de répondre sur ce que c'est qu'une actrice durassienne.
Oui.
Ah, vous voyez, hésite aussi.
Je vais parler que pour moi, pour ma part alors, juste pour ma part.
Qu'est-ce qui vous relie
Peut-être que c'est d'entendre la musicalité de l'écriture de Duras. Moi, je dirais ça. Je dirais que parfois, j'entends des gens dire Duras, lire Duras, interpréter Duras, et ça va trop vite. On n'est pas dans ce que moi j'entends quand je le lis. Et il y a des gens qui ont le rythme. C'est une histoire de rythme, parce que c'est très musical. Voilà, il y a un véritable rythme.
Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison, et je sais, je peux le dire, parce que parfois, en lisant le texte, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle dit ça? Et on n'a aucune idée, on ne comprend pas la phrase, et il n'y a rien à faire. Il faut aller avec le texte, il faut aller avec la musique.
Voilà.
Et si on arrive à faire ça un peu le jour, et sinon, si on lutte contre, si on exige une compréhension du texte,
tout
ça ne peut pas marcher.
Voilà, ce n'est pas forcément une compréhension immédiate.
Oui.
Et parfois, c'est des dizaines de représentations plus tard que j'ai l'image qui me vient. Je comprends la phrase, bien sûr, je l'interprète, mais j'ai ce champ devant moi qui s'ouvre parce que j'ai trouvé le bon rythme. Voilà.
Oui.
C'est un peu quelque chose comme ça de magique.
Oui, surtout que bon, Maud fait un travail assez particulier, puisque Maud joue au théâtre des textes de Duras qui ne sont pas à l'origine donc écrits pour le théâtre. Ce qui veut dire qu'elle elle prend des textes, des récits, tels que le barrage, par exemple, elle a travaillé le barrage, l'amant, la main de la Chine du Nord, la douleur. Et moi, j'allais dire qu'elle retricote. Et ce sont ces textes-là. Alors, pourquoi pas jouer des textes de théâtre, justement, et retravailler ces textes plus narratifs ?
Parce que je ne les entends pas assez fort pour les dire sur une scène de théâtre. Voilà, pour les dire des centaines de représentations. Et ils m'accompagnent partout dans le monde quand je les joue. Et à chaque fois, j'ai envie de les jouer parce que ces textes-là, qui sont romanesques, sont d'une telle puissance. Les phrases sont tellement ciselées, tellement fortes, tellement parfaites, que je n'ai encore trouvé aucun auteur qui écrit comme ça. Voilà, peut-être malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, je ne sais pas, mais... Je n'ai pas fini quand on me demande, on me dit « mais tu vas jouer autre chose que Duras ?» Bah, j'ai joué autre chose que Duras avant, quand j'avais pas ma compagnie, mais là j'en ai encore d'autres à jouer. Voilà. J'entends cette musique-là et j'ai envie de la porter et de la donner au public. Et de peut-être contredire ceux qui me disent « Duras c'est difficile d'accès, c'est compliqué, et c'est chiant, parce que souvent j'ai tellement entendu ça depuis plus de 10 ans que je travaille autour de son œuvre, Duras, c'est chiant. Ah non, c'est pas chiant. Non, non, venez, écoutez, vous allez voir, c'est merveilleux. Un monde va s'ouvrir à vous. Voilà, oui. Donc fais ça.
C'est d'ailleurs la tendance générale des gens qui portent un jugement. Quand ils portent un jugement qui est terriblement subjectif, ils disent « c'est ». Au lieu de dire « je trouve que ».
Bien sûr.
Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est pour ça que... enfin je fais un écart, hein, que entendre des critiques à la radio, des gens qui se disputent, c'est galvanisant parce qu'on se dit « Ah bon, ça j'aime, je ne suis pas toute seule ». Et des gens qui sont intelligents, qui ont la même culture, et l'un dit « Oh non, oh écoute, c'est chiant ». Et puis l'autre qui dit « Mais c'est passionnant ». Et on s'aperçoit que la subjectivité est tellement importante qu'on ne peut pas dire c'est chiant ou c'est pas chiant, c'est je trouve moi que c'est insupportable ou je trouve moi que c'est génial. Et c'est pour ça que je meurs tout le temps au « on ». On est... on trouve ça embêtant ou on s'ennuie. Ben non, on ne s'ennuie pas. Moi, je m'ennuie. C'est ça. Et moi, je ne m'ennuie pas du tout dans Marguerite Duras. Hein. Je ne me suis jamais ennuyée dans Marguerite Duras. Alors... pour revenir sur ces phrases qu'on ne comprend pas, dans Savannah Bay, l'avantage que j'ai, c'est que quand une phrase est un peu bizarre, eh ben on le met sur le compte de cette vieille dame un peu folle, qui a Alzheimer comme ça, vaguement. Donc, je n'ai même pas besoin de comprendre la phrase. Elle est naturelle dans la folie de cette vieille dame. Pour moi, donc, il n'y a pas de problème de phrase ou d'incompréhension.
Ben pour moi, ça pose un problème parce que ça va contre ma nature de jouer quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est vous qui finirez par me convertir. C'est votre passion. Parce que moi, j'ai tendance à dire « Oh, c'est... » Mais enfin, je ne peux pas parce que Catherine... Mais ça m'arrive où elle écrit une phrase et je me dis « Mais ça fait quoi cette phrase? Ça fait quoi là ?» Et vous avez parfaitement raison. Il faut le dire. Et on finit. Souvent, vous avez raison. On finit par se dire, je sais pourquoi.
Ça y est, je suis entrée là.
Oui.
J'ai poussé la porte et je suis entrée.
Oui. Ouais.
Et souvent, c'est cinématographique. Souvent, c'est une image. Et dès qu'on a l'image, après, on comprend les inversions de mots.
Oui.
Et on peut pas l'oublier non plus parce que c'est ça qui donne la force et le rythme et la musicalité. Il y a vraiment pas d'autres mots, quoi.
Oui.
Alors, si vous ne vous précipitez pas tous sur les livres de Marguerite Duras, c'est que vraiment, on aura tout fait. Mais...
Ouais. Merci beaucoup.
Nous allons continuer. Alors, nous allons continuer cette rencontre donc, et parler plus précisément de votre travail littéraire. Votre œuvre évoque votre quotidien avec Alain Robbe-Grillet, mais aussi votre vie plus intime, et notamment vos pratiques SM, votre passage de dominée au début de votre mariage à celle de maîtresse dominante. Nous reviendrons aussi à vos différents noms de plume, puisque vous écrivez, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, sous le nom Jeanne de Berg, Catherine de Robbe-Grillet. Bon. Alors, vous jouez Madeleine, qui semble avoir la mémoire défaillante, Et vous, en tant qu'écrivain, on perçoit votre désir de fixer les moments, de noter les journées dans ces détails. Oui. Vous semblez l'inverse de Madeleine. Vous voulez vous souvenir. En parlant des faits, vous dites dans le livre Alain, insignifiants ou pas, ils sont dans la chair de mon existence. Je n'ai pas envie de la sentir échapper comme l'eau fuyant entre les doigts. Donc, est-ce que cette écriture, son premier but, c'est pas de laisser trace ?
Oui, bien sûr. Mais laisser trace pour moi-même, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas comment votre mémoire fonctionne, mais en général, ben, on oublie au fur et à mesure qu'on vit, on oublie. On croit qu'on va garder la trace des événements, mais il y a quelques événements qui restent dans la mémoire, puis tout le reste s'efface, comme dans une espèce de brouillard. Et là, ça m'a toujours angoissée, cette idée que, tout d'un coup, je me retournerais sur mon passé et je dirais, mais qu'est-ce que j'ai vécu ? Mais j'ai rien vécu, finalement. Et ça, c'est un point de vue très différent de Beverley et de moi-même. Moi, je veux garder la trace de tout, jour par jour. Elle dit, bah, le temps fuit, tant pis, j'ai oublié, c'est pas grave. Et cette angoisse de tout fixer fait que jour par jour, j'ai écrit les petits faits de la journée, puis des choses plus importantes. Et ça a considérablement servi d'ailleurs, parce que Alain, lui, n'écrivait rien. Et quand il s'est agi une fois d'un hommage à Rob Grier en 2002, oui, c'est ça, il fallait faire une biographie. Et ben, il n'y avait rien. Il y avait ses livres, mais lui n'avait rien écrit. Il avait un agenda. Je me suis aperçue que l'agenda, il était vide. Donc, il n'a plus acheté d'agenda très rapidement. Donc, ben, c'est dans mes écrits qu'on s'est penché. C'est grâce à mes écrits qu'on a retrouvé ses nombreux voyages, des dates qui étaient importantes, qui a permis d'inscrire le fait qu'il avait eu une vie d'écrivain, évidemment, et d'œuvre, ça, c'était noté. Mais il avait eu une vie quotidienne aussi. On avait une maison à la campagne, on avait construit des murs, on avait réparé un bassin, enfin, tout ce qui fait la vie de quelqu'un au jour le jour. Et je dois dire que maintenant, j'ai en partie perdu la vue. Vous ne le voyez pas, mais j'ai en partie perdu la vue. C'est-à-dire que je ne peux plus lire, très mal, très difficilement, et je continue à écrire contre vents et marées jusqu'à ce que je ne pourrai plus le faire, parce qu'on peut écrire quand même au jugé. Donc je continue à lutter contre la mort. Enfin, j'ai cette impression-là. C'est-à-dire, d'une part, de lutter contre la mort, contre ma propre mort, et en même temps, j'ai l'impression que je laisse quelque chose. Quelque chose aux gens qui pourront lire, qui se diront « Ah ben voilà, en 2017, voilà comment on vivait, voilà ce qui se passait au jour le jour. » J'ai l'impression que c'est en même temps quelque chose que j'apporte au monde. C'est peut-être un manque de modestie, je ne sais pas. Enfin, tout ça va aller dans les archives avec celle d'Alain, à l'IMEC, à l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, et des chercheurs en feront quelque chose, ou rien. Mais j'ai l'impression que j'aurai...
Ou tu les publieras.
Jamais.
Mais si, tu as déjà publié, bah, tu en as publié.
Oui, il y a déjà... C'est une question que vous vous posiez déjà, à l'époque, par exemple, du journal, parce que...
Bah oui, c'est vrai, au fond. Bah oui. Mais oui, j'en ai publié. J'en ai publié. Ah mais oui, c'est vrai. Alors, c'était à cette occasion, justement, de cette exposition qui devait avoir lieu en 2002, et du fait qu'il fallait retrouver des éléments de la biographie d'Alain, que je suis montée au grenier et que j'ai retrouvé 5 cahiers. 5 cahiers que j'avais commencé le jour de mon mariage, le 23 octobre 1957, et que j'ai perpétué, enfin que j'ai continué jusqu'en 62. Alors ça, c'était un vrai journal, hein, avec un cahier où je notais au jour le jour. Eh oui, au jour le jour, au jour le jour. Théoriquement, mais quelquefois, je ne faisais pas pendant 8 jours, pendant 15 jours, puis il y avait les voyages, et puis je prenais du retard et j'avais mauvaise conscience. J'avais tellement mauvaise conscience qu'un jour, j'ai arrêté. J'ai arrêté en 62. Mais ces cahiers-là, je les ai relus, donc, pour cette exposition. Et en les lisant, je me suis dit, oh là là, il y a des tas de choses sur Alain. Peut-être que je me suis dit, est-ce que je lui fais lire, est-ce que je ne lui fais pas lire? Finalement, je lui ai fait lire. Et il a trouvé ça tout à fait passionnant, même ce que je disais sur lui, même si ce n'était pas à son avantage. Et Olivier Corpé, qui dirigeait l'IMEC à l'époque, l'a lu et a dit, mais il faut publier ça. Alors, j'ai hésité pendant des mois, en me disant, c'est quand même tellement intime. Et puis, Fayard m'a fait un avaloir tellement intéressant que je me suis dit, bon, bah, ça intéresse.
Alors, et puis, c'est Alain qui t'a poussé à publier.
Alors, Alain, absolument, m'a poussé à le publier, tu as raison, parce qu'il a dit, je veux que ce soit publié avant ma mort, parce que comme ça, j'assume tout ce qui est dit dans le journal. Tandis que si c'est publié après ma mort, on pourra penser que c'est une trahison. Donc, je l'ai publié, poussé à la fois par Fayard, par lui et par Corpé.
Il était très bien, là.
Oui. j'ai eu de la chance. Oui. Donc, effectivement, j'en ai publié une partie. Non, quand je disais non, c'est que, après ça, en 62, j'ai donc arrêté complètement, en me disant que je n'arrivais pas à garder la cadence, donc j'ai arrêté. Et puis, toujours cette idée, mais non, il faut garder quelque chose. Sans ça, ça va être rien du tout, une vie passée qui va disparaître. Et j'ai recommencé, alors, sur des agendas de petit format, 6 sur 9 centimètres, où j'écris tout petit, à telle enseigne qu'un jour où j'écrivais au flore, il y a un client qui s'est passé qui s'est mis au-dessus de mon épaule et qui m'a dit « Mais vous arrivez à vous relire ?» Et j'ai dit « Bah oui, j'arrive à me relire. » Donc, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé, je crois, en 1965, et là, je n'ai jamais arrêté. Alors, ces petits agendas n'ont jamais été publiés. Là, ils n'ont pas été publiés, et ils seront à l'IMEC, et il y aura des chercheurs, ils en font ce qu'ils voudront.
Alors, dans ces petits agendas, justement, vous utilisez le terme de paperole. C'est un peu l'inverse.
Des paperoles, oui.
C'est un peu l'inverse de l'écriture de Duras, où elle, c'est plutôt un palimpseste, c'est-à-dire qu'elle efface, elle écrit. Alors que vous, on a l'impression que c'est au contraire, vous êtes dans le détail, vous rajoutez, donc il y a ces paperoles. Alors il y a un désir de précision aussi.
Il y a un désir de précision, oui. Oui, un désir de. Alors les paperoles, bon, c'est une espèce d'hommage à Proust. C'est lui qui parlait de, je crois, de paperoles. Et c'est des petits bouts de papier qu'on rajoute parce que la page est trop petite et donc on a des choses à rajouter, c'est ça. Mais palimpseste, non, j'efface pas. C'est sûrement pas. Non, c'est écrit. Ou alors si j'ai fait une faute d'orthographe, je la corrige, ça c'est sûr, mais ça s'appelle pas un palimpseste.
Alors justement, non, vous n'effacez pas. Alors justement, dans votre journal, comme dans le texte intitulé Alain, donc texte plus récent, on songe à Colette, on songe à Duras aussi, parce que vous faites place aussi bien aux travaux de la maison, à la cuisine, au jardin, qu'au colloque, au projet cinéma, qu'à votre vie intime avec Alain Robbe-Grillet. Alors, comment on décide de noter tel ou tel autre fait? Est-ce qu'à la publication, vous avez soustrait des choses? Parce que c'est, par exemple, dans Jeune marié, c'est une question que vous vous posez. Vous dites tout là, je ne sais pas, en même temps, si on va me lire, si quelqu'un... Je ne suis pas sûre si quelqu'un, des fois, me lit. Bon, est-ce que...
C'est une question que je me suis posée, d'ailleurs. C'est à partir du moment où j'ai su que mes petits agendas iraient dans les archives et donc serait consultable, est-ce que je ne modifie pas ma façon d'écrire? Alors, je dis que je ne mets pas de feuilles de vigne à mes mots, mais est-ce qu'inconsciemment je ne le fais pas? Je ne sais pas. J'essaye d'être... de continuer à être sincère comme si personne ne devait me lire. Or, on me lira. Enfin, peut-être en tout cas, c'est peut-être pas sûr, mais c'est possible. Alors, non, je ne peux pas dire assez. Alors, en ce qui concerne Alain, l'origine est la suivante. Il y avait des années et des années que Olivier Corpé, qui à l'époque dirigeait l'IMEC, avait décidé de faire une biographie d'Alain. Et puis, les années passant, il n'y avait toujours rien. Pas la première ligne. Je me suis dit, mais...
Oui, parce qu'il faut dire que, comme le projet était à Corpé, personne d'autre avait le droit de le faire.
Oui, c'est ça. Personne d'autre ne pouvait le faire. Et je me suis dit, mais j'avance en âge, et rien de ma propre vie avec Alain ne sera là, puisque le biographe j'avais imaginé que le biographe éventuel, j'aurais des entretiens avec lui, donc je pourrais apporter ma note personnelle. Et puis, comme rien ne se décidait, je me suis dit, je vais écrire, moi, ma vie avec Alain, ma conjugalité avec lui, notre intimité, et pour qu'il reste quelque chose qui servira peut-être à compléter une biographie future. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Alain, qui est fait un peu comme un dictionnaire ou comme un abécédaire, hein. C'est plutôt un abécédaire, c'est même un abécédaire.
Alors, oui, un abécédaire.
J'ai pas tout relaté, évidemment, de notre vie, c'est pas possible de tout relater, mais ce qui me paraissait le plus saillant, disons, ce que je voulais raconter justement, de ce qui était peut-être inconnu d'un public qui ne se connaissait Alain que par ses livres, ses films et la réputation qu'il avait d'être sectaire, dur, volontiers disant ce qu'il fallait pas. Je voulais parler de son côté sentimental, qui n'apparaissait pas du tout dans ses écrits, enfin des choses qu'on ne connaissait pas, c'était ça pour moi. C'était un autre Alain, celui de vu par son épouse, par son intimité.
Alors effectivement, je trouve que c'est un texte magnifique, vraiment.
Oh, j'ai beaucoup soigné, je dois dire.
Et donc c'est une suite de biographèmes, on peut dire, oui. Hein, classés par ordre alphabétique.
J'essaie qu'il se soit très vivant. On a l'impression qu'il est là.
Ah oui, je trouve que c'est très
réussi. J'ai essayé de faire quelque chose avec un petit peu de sourire, à la fois tendre mais souriant.
Et puis c'est... En fait, en lisant ces fragments, quand on les rassemble, c'est 50 ans de vie et d'amour aussi qui ressort.
50 ans et 4 mois.
Voilà. Et ça, je trouve que c'est très, très fort dans ce texte. Et en même temps, vous expliquez bien hein, aussi cette relation de couple, on va dire, particulière.
Hein. Assez particulière, faut bien le dire.
On peut penser parfois à Simone de Beauvoir et Sartre, mais... On se dit que vous avez, semble-t-il, réussi.
Ce qu'ils avaient raté.
Voilà, parce que vous expliquez clairement dans ce texte, par exemple, la relation d'Alain Robbe-Grillé avec Catherine Jourdan.
Oui. Hein,
et vous expliquez qu'il n'y a aucune jalousie, ce qui n'était pas le cas de Simone de Beauvoir.
Non, parce que c'est vrai que mon mari était quelqu'un... Moi, j'avais... une vie sexuelle foisonnante, disons. Mais j'étais autorisée par mon mari. Non seulement j'étais autorisée, mais je lui racontais. Et ça l'amusait. Mais lui, il était complètement pris par la littérature, le cinéma. Et donc, il n'avait pas d'aventure extérieure. Sauf une fois, avec Catherine Jourdan, qui était la vedette d'un de ses films, L'Éden et après. Très jolie fille, et au lieu d'être jalouse, moi je trouvais ça très bien. J'étais très fière que mon mari ait une très jolie maîtresse, et j'ai vécu ça comme un feuilleton. Parce que Alain me racontait, quand on se retrouvait le soir, il me racontait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit. Et je n'ai pas du tout été jalouse, absolument pas. Alors, vous me direz, c'est invraisemblable cette histoire. Alors, c'était parce que j'avais une telle confiance en lui, une telle confiance qui n'était pas passée dans mon esprit, mais même pas un quart de seconde qu'il pouvait me quitter. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Alors donc, non, c'est vrai que j'étais pas jalouse, que c'était plutôt elle qui était jalouse.
Et mais d'ailleurs, ça s'est terminé au moment où Alain trouvait qu'elle n'était pas bien avec toi.
Elle n'était pas très gentille avec moi, non, c'est vrai. Pas très gentil. Bon. Mais enfin, je l'ai pas vécu. Alors, évidemment, donc, je raconte donc dans Alain, j'ai repris tout ce qu'il y avait dans mon agenda concernant cette liaison. Parce que, comme j'écrivais tous les jours ce qui se passait, j'ai écrit tous les jours ce que Alain me racontait sur... les sorties avec Catherine, les sorties en boîte, les restaurants, Et puis quelquefois, Alain me disait, bon, bah, je rentrerai pas cette nuit. Alors je racontais qu'elle rentre. Enfin, bon, je raconte jour par jour sa liaison avec Catherine Jourdan et la façon dont ça s'est terminé. Pour, si vous voulez, donner consistance et réalité au fait que, parce que c'est facile de dire, mais non, j'étais pas jalouse, tout ça, c'était... Non, là, il y a la preuve, jour par jour, que j'ai vécu ça vraiment dans la totale confiance avec Alain. Puis je vous dis, pour moi, c'était le feuilleton. J'assistais tous les jours, quelque chose comme on voit un feuilleton à la télé.
Alors, on va revenir sur le fait que vous écrivez donc sous le nom de Catherine Robbe-Grillet, mais aussi sous le nom Jeanne de Berg, d'ailleurs au départ, sous le nom Jeanne de Berg, puis oui. D'ailleurs même tout à fait au départ que Jean de Berg.
Oui.
Non. Alors moi, j'aimerais vous demander dans quel sens ça fonctionne, c'est-à-dire est-ce que c'est Jeanne de Berg, à un moment donné, qui décide d'écrire un texte, ou est-ce que c'est un texte qui s'écrit, et vous vous dites que vous le signez Catherine Robbe-Grillet ou Jeanne de Berg?
Ah non, Jeanne de Berg, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre partie de ma vie, c'est celle qui évidemment est vouée au sadomasochisme et qui organise des cérémoniales que j'ai racontées dans Cérémonie de femmes, Le petit carnet perdu, et puis, oui, non, c'est tout. Ah ben, l'image, le premier, Jeanne de Berg. Bon, alors, le premier, qui est un roman, c'est en 1956. Et en 1956, il n'était pas question, pour des raisons de censure et de poursuite pénale, que j'écrive sous le nom de Catherine Robbe-Grillet. Donc là, c'était une protection, cet anonymat. Et puis, postérieurement, c'est-à-dire après 68, 70, les mœurs se sont libérées, on a pu écrire des choses qu'on ne pouvait pas du tout écrire en 56. Et à l'époque, j'ai organisé... J'étais d'abord ce qu'on appelle soumise, dans ce vocabulaire. Et puis ensuite, dans les années, un peu plus tard, j'ai changé de rôle. Et je suis devenue dominatrice et j'ai organisé des cérémoniales, mais alors assez théâtralisées. Et c'est un peu par hasard, enfin ce serait un petit peu long que je raconte comment, on m'a demandé de les écrire. Et donc j'ai raconté, dans Cérémonie de femmes, sous le nom de Jeanne de Berg, je raconte certaines de ces cérémonies, très théâtralisées. Bon, je suis passée avec une voilette à apostrophe, évidemment ça a beaucoup intrigué à l'époque, et quelques jours après, on a dit, cette Jeanne de Berg qui est passée sous une voilette à apostrophe, c'est Catherine Robbe-Grillet. J'ai été sidérée, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient au courant, et alors après, évidemment... Mais j'ai continué à écrire sous le nom de Jeanne de Berg, ce qui concernait cette partie très particulière de ma vie, qui n'est pas celle de Catherine Robbe-Grillet, qui est une vie quotidienne ou de voyage avec Alain. Ça, c'est totalement particulier. C'est mes relations sadomasochistes et la façon dont j'organisais ces cérémoniales. Et que je continue d'ailleurs. Ça explique, si vous voulez, tout à fait ces deux personnes différentes, si vous voulez. Catherine Robbe-Grillet, c'est celle que vous voyez, plutôt vivante, plutôt... Bon, Jeanne de Berg, elle est très différente. C'est elle qui dirige, c'est elle qui organise, c'est elle qui n'a pas la même voix, qui n'a pas la même... C'est un dédoublement, si vous préférez. Voilà, c'est un dédoublement. Un peu analogue, peut-être, à un dédoublement d'acteurs. Hein. C'est les acteurs, quand ils montent sur scène... ils ne sont pas ce qu'ils sont dans la vie courante. Alors évidemment, la différence, c'est que ce n'est pas un rôle appris. C'est moi qui organise le texte. C'est moi qui organise ce qui va se passer. Je crois que donc c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait séparé.
Il y a pas de superposition entre Catherine Robbe-Grillet et Jeanne de Berg. Il y a une dissociation, en fait.
Non, une dissociation. Ouais. C'est comme si, quand je suis Jeanne de Berg, j'ouvrais une porte et je fermais la porte derrière moi. Et je rentre dans un autre monde qui dure une heure, deux heures. Et puis, après, c'est fini. On ouvre une porte, Jeanne de Berg disparaît et je rentre dans la vie courante où là, je suis Catherine Robbe-Grillet. Donc, si vous voulez, c'est comme une bulle, c'est comme un espace qui est clos. Non, dans la vie courante, non. Dans la vie courante, je suis Catherine Robbe-Grier, je ne suis pas Jeanne de Berg.
Alors, dans ce texte, Le petit carnet perdu, Jeanne de Berg, où en même temps, on sait que dans le texte, on sait que vous êtes Catherine Robbe-Grier.
Oui. Hein.
Bon. Donc, ce petit carnet perdu, vous, en fait, relate un carnet perdu, enfin, point d'interrogation.
Hein, oui.
Parce qu'on ne sait pas réellement s'il a été perdu, volé.
Si, il a été perdu.
Et oui, mais vous, à un moment donné, vous vous posez vous-même la question. Hein, bon. Et puis, vous retrouvez, on vous ramène ce carnet. Ce carnet dans lequel donc, vous notez des indications sur les cérémonies. Hein. Vous êtes un petit peu inquiète. Et quand on vous le ramène, il y a des annotations qui viennent dire que ce qui est choquant, la personne qui... Donc il y a quelqu'un qui a rajouté, en fait, des notes.
Oui, c'est-à-dire que c'est un carnet que j'avais dans mon sac. Et à la gare de Caen, tout d'un coup, je vois que dans mon sac, il n'y a plus le petit carnet. Je suis prise de panique, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore que Jeanne de Berg, c'était Catherine Robbe-Grier. Et je suis un peu prise de panique. Et 48 heures plus tard, je reçois un coup de téléphone parce que sur ce petit carnet, il y avait quand même mon nom, mon adresse et un numéro de téléphone. On m'appelle et on me dit, est-ce que vous n'avez pas perdu un petit carnet? J'ai dit, moi non, mais ma belle-sœur, oui, mentant et frontément. Bon. Écoutez, je voudrais bien vous le rapporter, mais je l'ai trouvé à la gare Montparnasse, par terre. Je voudrais bien vous le rappeler parce que je pense que ça manque à la personne qui l'a perdu, mais je ne voudrais pas que j'ai des problèmes. Alors j'ai dit, mais des problèmes? Mon Dieu, non, monsieur, vous avez la gentillesse de me rapporter ce carnet, comment pourrais-je vous faire des problèmes? Alors 48 heures après, il est arrivé, c'était le soir. Alain était à la porte pour voir un petit peu qui arrivait. Il est arrivé un jeune homme très convenable qui est monté chez nous dans l'appartement, qui m'a redonné le petit carnet. Et puis on a voulu lui offrir un verre. Il a dit non, je ne bois pas d'alcool. Et c'était un Irakien, un jeune étudiant irakien musulman, donc il ne buvait pas d'alcool. Alors on a dit, bon, bah, peut-être qu'on pourrait vous récompenser. Est-ce que vous désirez... Il a dit, je désire qu'une chose, un livre de M. Robbe-Grier, dédicacé. Oh, alors là, on était sidérés parce qu'on ne pensait pas que la personne qui avait retrouvé le petit carnet était un étudiant qui connaissait Robbe-Grier. Bon, alors, après son départ, j'ai regardé le petit carnet. Il se trouve que c'était au début de l'année. Donc, qu'il y avait les deux premiers mois où il se trouve qu'il y avait plusieurs cérémoniales, dont un jeune homme qui était marqué à mes initiales au fer rouge. Alors évidemment, quelqu'un qui lit ça, c'est surprenant. Et alors, il y avait dans les pages blanches des réflexions du genre, pourquoi préférer ce genre de choses à l'amour, quand l'amour existe? Ou bien, j'espère ne pas vous rencontrer, hein. Qui êtes-vous, une bourgeoise, une péripatéticienne? Enfin, il y avait comme ça, échelonné tout le long, et il y avait une page qui manquait. Et l'étudiant qui était arrivé, qui a rendu le carnet, m'a dit, vous verrez, il y a une page qui a été arrachée, c'était trop insultant pour une femme. Bon, je ne saurais jamais ce qu'il y avait sur cette page arrachée. Toujours est-il que je me suis appuyée sur toutes ces réflexions pour écrire le petit carnet perdu, pour répondre à chacune des objections, en disant « mais vous vous trompez, dans les relations sadomasochistes, il y a tout à fait de l'amour, et ça peut même être de l'amour-passion. » Et vous voyez, j'ai repris tout ce qui était des objections pour répondre à ces objections, parce que depuis toujours, enfin un peu moins maintenant j'ai l'impression, et encore, j'en suis pas sûre, il y a une incompréhension vers ce genre de relations qui sont évidemment bizarres, il faut bien le dire. C'est très bizarre ce genre de relation où l'humiliation et la douleur sont des plaisirs et sont demandés. Donc je voulais répondre à toutes ces objections en pensant que Enfin, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc ça a été une occasion.
Alors, dans une des annotations, la personne note que ce qui le dérange, c'est que vous écriviez.
Ah oui, 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 c'est vrai,
c'est
vous avez raison.
C'est le fait d'écrire.
Le fait
alors,
d'écrire.
Duras, d'ailleurs, disait que les hommes, ça les dérange, les femmes qui écrivent. Alors, est-ce que vous...
Ah,
pour Duras, oui, il dit les femmes qui écrivent, ça les dérange, les hommes. Alors, est-ce qu'on trouve ça... Parce que c'est particulier, ce le fait de dire... Enfin, il insiste deux fois, il y a deux, au moins deux annotations. Je ne comprends pas que vous écriviez.
Oui. Non seulement que j'écrive, mais que je perde mon petit carnet. À mon avis, je ne l'ai pas perdu. On l'a pris dans mon sac parce que c'est un petit carnet dont, vous savez, il y a des petites poches sur les côtés, au revers des couvertures, où on peut glisser. Et manifestement, la personne qui me l'a pris dans mon sac cherchait de l'argent. Et donc, cherchait de l'argent et puis l'acheter. Je n'ai jamais su en réalité ce qui s'était vraiment passé et comment cet étudiant, est-ce qu'il l'avait vraiment trouvé par terre? Moi, je pense que c'était un ami de celui qui a écrit ces phrases et qu'il a dit et qu'il a arraché, il me l'a rendu, mais il avait arraché cette page, lui, parce qu'il trouvait que c'était insultant. Et il a dû dire à ce garçon, tu me donnes le carnet, moi je le rends. C'est comme ça que j'imagine cette scène. Donc, je ne saurais jamais. J'ai écrit le petit carnet perdu, donc, pour répondre à toutes ces objections, qui sont des objections qui n'étaient pas très rares, disons. Et avec ces vagues idées que, peut-être... la personne qui a écrit ces phrases se manifesterait ou que l'étudiant en question le lirait. Puis non, j'ai pas eu d'écho. Pas du tout. Voilà. Alors, que Duras dise que le fait que les femmes écrivent, je sais pas. Je pense que ce garçon a été gêné de lire ça. Mais il est évident que ça ne lui était pas destiné et que c'était fait pour rester tout à fait dans mon intimité personnelle. Enfin, non. Mais, donc, je comprends, ça l'a dérangé, lui, de le lire.
Merci.